Touge cet après-midi en direct du Salon des Entrepreneurs Porte-Maillot. Et c'est le moment, Raphaël Duchemin, comme chaque jour, de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Oui, un bouquet de fleurs, c'est vrai que c'est joli, ça décore une pièce de la maison. Mais ensuite, soit on le fait sécher, soit on le jette. Elisabeth, votre solution aujourd'hui, c'est de les manger, ces fleurs. Et ça s'appelle fleurivore.
Oui, fleurivore, c'est le bouquet de fleurs que l'on admire et qui est comestible. C'est un concept qui est totalement unique. Il a été créé à Paris par deux entrepreneuses, Amandine et Blanche, qui avaient cœur de démocratiser les fleurs comestibles. Les fleurs comestibles qu'on trouve généralement chez les grands chefs, dans les belles tables, mais rarement à la maison. Ces fleurs particulières viennent de petits producteurs français, des fleurs françaises, bio, non traitées, issues de circuits courts. Et en plus de pouvoir déguster notre beau bouquet, on reçoit aussi des fiches explicatives qui donnent le nom de chaque espèce. Bonjour Amandine Hennec.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
On a un joli bouquet de fleurs là près de vous. Vous êtes la cofondatrice de Fleurivore. Alors d'abord l'idée, il fallait y penser. Comment ça vous est venu ?
Alors, c'est une idée qu'on a eue donc, il y a un an et demi, qu'on a eue parce qu'on avait une sensibilité en fait, au végétal. Et Amandine et moi, donc moi je suis Blanche, je suis son associée.
Ah, mais...
on était créatifs dans la publicité et donc notre métier c'était d'avoir des idées folles.
Alors comment ça s'est passé ? Vous vous êtes dit, comment vous êtes passé du bouquet de fleurs à la fleur qui se mange ?
Alors en fait, on voulait avoir un produit qui a pâte, qui nous permette vraiment d'aborder les fleurs comestibles avec un produit qui soit séduisant, qui soit facile, qu'on ait l'habitude de manipuler. Et c'est donc le bouquet de fleurs.
Alors, comment sont-ils composés ? Vous allez chercher des fleurs chez des producteurs que vous choisissez ? Comment ça se passe, la chaîne de production ?
Alors en fait, il y a deux types de production. La première, c'est qu'on a des producteurs qui sont dans la fleur classique, la fleur ornementale, à qui on a demandé donc de planter des fleurs spécifiquement comestibles, et d'autres qui sont vraiment spécialisés à la base dans la fleur comestible.
Là, par exemple, vous avez un bouquet avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de fleur va avec quel plat, par exemple, ou ce qu'on peut en faire ?
Oui, bien sûr.
Parce que vous mettez manifestement des fiches pour nous aider.
Explicatives,
ouais. Oui. Alors, c'est très important parce que ça permet vraiment, en fait, au grand public de pouvoir faire ses premiers pas avec les plantes comestibles. Donc, c'est élémentaire.
Alors, par exemple ?
Alors, on a par exemple du giroflée. Donc, le giroflée, c'est la fleur blanche que j'ai ici, qui a un goût de roquette. Qui est de la même famille de la même famille que la roquette et qui peut se consommer par exemple en salade. Donc c'est très basique, mais ça fonctionne très bien. On a du toulbaga. Le toulbaga, c'est une fleur d'ail. C'est une fleur d'ail en fait. Donc à la place de l'ail classique,
ouais.
Utiliser du toulbaga, c'est beaucoup plus joli, c'est juteux, c'est super intéressant et ça a des saveurs qui sont plus subtiles.
Alors si par exemple je commande un bouquet de fleurs chez Fleurivore, je le garde une semaine et au bout d'une semaine, je peux manger les fleurs. Quel est le rythme à respecter ?
Alors vous êtes libre de faire comme vous le sentez, mais en fait on a deux manières de le consommer globalement. La première, c'est d'attendre que le bouquet arrive sur la seconde phase de sa vie et de le consommer au lieu de le jeter. Et la seconde, c'est vraiment de picorer au besoin d'une recette. Vous allez faire par exemple des pâtes ce soir, vous avez du basilic rouge dans votre bouquet, utilisez le basilic. Voilà, donc ou on pioche ou on attend la fin du bouquet.
Gilles, ça vous ouvre l'appétit ?
Tout à fait, ça m'ouvre l'appétit. Et puis je me demandais aussi si à l'origine de ce projet-là, il y avait un combat pour vous, la fleur made in France versus, parce qu'on sait que la fleur vient alors au mieux des Pays-Bas et au pire à plusieurs milliers de kilomètres de là. Est-ce que pour vous, c'est un combat ?
Tout à fait.
Défendre une filière française ?
Tout à fait. Alors, pour être honnête, au début du projet, on était persuadés qu'on allait tomber sur plein de producteurs en France de fleurs et qu'ils étaient tous en bio et que voilà, ce ne serait pas une difficulté. On a réalisé que 85% des fleurs proviennent de la Colombie, du Kenya, de la Chine, que les bouquets de fleurs, en réalité, on a l'impression d'être proche de la nature. En vérité, c'est une industrie qui est très sale. Donc, en développant notre projet, on en a fait vraiment un combat. On s'est dit, c'est hyper important qu'on maintienne en fait cette idée d'avoir de la fleur française toute l'année et sans traitement.
Le prix du bouquet, d'un bouquet classique, ça commence à quel prix chez vous ?
Ça commence à 35 euros. Ça correspond à un prix, en fait, on s'est aligné sur les prix de nos concurrents. Donc 35 euros, c'est un bouquet qui est beaucoup plus gros que celui que j'ai là, qui fait à peu près le double. C'est un bouquet standard.
Aujourd'hui, vous êtes en capacité de livrer combien de bouquets ? Parce que c'est une aventure qui est assez récente.
Ouais.
Vous avez des producteurs qui travaillent avec vous, peut-être de plus en plus. Quelle est l'ambition finalement, concurrencer des grandes enseignes qu'on connaît aujourd'hui ?
Alors, je pense qu'on est sur un marché qui est très différent, parce qu'on est vraiment sur le marché culinaire. On n'est pas là pour concurrencer, je pense qu'on est là pour apporter quelque chose de nouveau et sensibiliser le grand public du coup à cette question de la production de la fleur française. Évidemment, on est limité en termes de production actuellement, parce qu'on travaille avec des petits producteurs, que l'hiver, un petit coup de froid et il n'y a plus personne le lendemain. Donc évidemment, on est limité par ces aspects-là. Mais voilà, on développe Fleurivore, on a de plus en plus de producteurs, on développe aussi la production de la fleur comestible. Donc petit à petit, on est de plus en plus capable de faire de la quantité.
Et au-delà des particuliers, vous allez aussi auprès des grands chefs ?
Tout à fait.
Livrer chez eux aussi ?
Tout à fait. On travaille avec des chefs, on travaille aussi avec des barmans qui utilisent énormément de plantes comestibles sur leur cocktail, par exemple. On travaille aussi beaucoup avec des entreprises, donc sur l'événementiel, sur des ateliers. Voilà, donc on est un peu sur tous les champs.
Gilles Van Der Potten,
oui, notre à propos coach. De la distribution, est-ce que vous cherchez des nouveaux réseaux de distribution ? Vous allez privilégier la vente directe ?
Alors, actuellement, on se concentre beaucoup sur les entreprises, mais c'est vrai que sur le particulier, en fait, sur la vente en ligne, on n'a jamais fait de publicité, on n'a jamais cherché à vraiment développer notre site e-commerce. Donc c'est quelque chose qu'on a pour ambition de faire rapidement.
Donc prochain projet, les réseaux sociaux et la vente en ligne.
Oui, tout à fait.
Et ça s'appelle Fleurivore, c'est la solution aujourd'hui. Merci Blanche d'être venue nous en parler sur Europe 1. On reste ensemble ici toujours au Salon des Entrepreneurs.
Il est midi 58.
Europe 1.
Et on vous attend bien sûr, restez avec nous. Vous allez dans l'heure qui vient découvrir un tas d'innovations. Elles sont consacrées à la médecine, ces innovations, à notre santé. Et elles sont françaises, bien sûr. La France bouge avec vous, grâce à vous. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans La France bouge. Ici, vous le savez, c'est vous que nous aimons mettre en avant vos idées, vos talents, vos compétences, qu'elles soient au service d'une association, d'une entreprise ou d'un territoire. L'idée, c'est de montrer que vous faites changer le monde et bouger la France. Et c'est ici, au Salon des Entrepreneurs, qu'on est venu prendre le pouls de ce changement avec des innovations tricolores qui vont changer notre quotidien en matière de santé. Bonjour, Sla Haridi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'une entreprise qui s'appelle Sensoria Analytics. Et alors, vous avez mis au point un système de détection pour prévenir les maladies cardio-respiratoires. Racontez-moi peut-être d'abord comment vous est venue l'idée. Je crois que c'est en 2017, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est un peu avant. Je travaillais pour une grande multinationale et je faisais de la recherche et développement à Villeneuve-Loubet dans le sud. Et ils ont décidé de partir, donc faisant partie de la reconversion, donc j'ai créé cette compagnie. Et on s'attaque à essayer de créer de nouvelles solutions dans le domaine de la e-santé.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez inventé pour faire en sorte de détecter justement les problèmes respiratoires ?
Ça a commencé, on a posé la question aux médecins traitants, aux médecins généralistes, pourquoi ils ne font pas assez de dépistage de maladies cardiovasculaires. Et ils ont dit tout simplement qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens. Donc on a pensé à leur donner le temps et les moyens en s'appropriant un outil qu'ils utilisent déjà, qui s'appelle un oxymètre, c'est celui-là. Mm-hmm. Et ça mesure tout simplement la saturation en oxygène dans le sang.
Alors l'oxymètre, c'est l'appareil qu'on met au bout du doigt,
hein,
qui est relié à une machine et qui permet de nous donner tout un tas d'indications sur
notre santé. Ça donne deux signes vitaux seulement. C'est la saturation en oxygène et le rythme cardiaque moyen. Et nous, on a créé une application qui se connecte à l'oxymètre. Elle récupère le signal brut de l'onde de pouls qui se propage dans nos artères et on analyse ça avec nos algorithmes avancés pour en déduire à peu près 7 signes vitaux en temps réel.
Alors justement, comment est-ce que vous avez réussi à les identifier, ces signes vitaux qui vont permettre finalement de faire de la prévention ?
Ces signes vitaux sont des signes vitaux standards. Par exemple, il y a le rythme cardiaque instantané, pour voir la variation, par exemple, pendant la mesure, comment ça varie entre le jaune, le rouge et le vert, pour essayer d'identifier, par exemple, les tachycardies ou les bradycardies. Le deuxième signe vital, c'est le taux respiratoire, qui est vraiment assez compliqué à mesurer. Parce que le taux
principe, on le fait avec des machines, hein, c'est ça, ou avec des masques.
Avec un masque pour mesurer le dioxyde de carbone. Nous, on le fait tout simplement à travers des algorithmes avancés où on filtre le signal cardiaque pour en extraire le signal respiratoire. Après, on le combine avec l'oxygénation pour trouver un état respiratoire. Donc, on peut être normal ou on est un peu en panique, donc on va être en hyperventilation. Si on est, par exemple, on a des allergies pendant la saison du pollen, on va être en manque d'oxygénation. Sinon, on peut avoir un risque, par exemple, de cardio-respiratoire lorsqu'on a l'oxygène très bas et le taux respiratoire très élevé. Quoi.
Donc, admettons, je me branche là, je mets mon doigt dans l'appareil, c'est connecté à votre innovation. Je vais savoir très rapidement si je présente un risque.
Oui.
En combien de temps?
En 2 minutes.
Il faut que je sois assise, c'est
oui,
ça?
Oui, il faut être assise et calme et tranquille, il ne faut pas bouger. Et on prend un signal pendant 2 minutes et on analyse encore plus l'onde pour essayer de voir, par exemple, du côté où on a fait la mesure, s'il y a peut-être potentiellement des obstructions, c'est-à-dire des dépôts d'athérome.
Une artère bouchée.
Voilà, à un certain degré. On ne peut pas dire vraiment où, mais on peut dire quel pourcentage.
La commercialisation, elle est prévue pour quand vous êtes en train d'essayer de tester, c'est ça, avec des hôpitaux ?
Avec des médecins, on est en train d'essayer avec des médecins. On est en train de faire des protocoles, des tests cliniques, le protocole pour les tests cliniques avec le CHU de Nice. On travaille aussi avec des fondations ici à Paris de maladies mentales aussi pour pouvoir faire des tests cliniques avec eux parce que les malades mentaux, eux, ils développent 2 fois plus de maladies cardiovasculaires que les gens qui n'ont pas de pathologie mentale.
Gilles van der Putten, notre coach.
Oui, j'ai lu sur votre site que vous promettiez de réduire considérablement le coût de la prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Est-ce que vous avez déjà évalué ce que ça pourrait représenter pour, déjà le coût de cette solution pour un médecin ou pour un cabinet médical et les économies potentielles, par exemple pour la sécurité sociale? C'est possible ça aujourd'hui de faire des simulations?
On peut faire des simulations pour le quantifier, mais ce ne sera pas vraiment tout à fait exact. Ça dépend de taux de pénétration, quoi. C'est-à-dire le taux que les médecins ils vont adopter cette technologie-là. Mais il y a la possibilité de portage de cette technologie-là, par exemple, sur les montres connectées. Là, ça va être beaucoup plus généralisé, donc on va avoir beaucoup plus d'impact parce que monsieur tout le monde pouvoir l'utiliser. Parce que la problématique des maladies cardiovasculaires, c'était vraiment la prise de conscience. Les gens n'ont pas de conscience qu'ils ont un problème, qu'ils ont, par exemple, les artères rigides à cause de stress. Le stress crée des rigidités des artères qui peut causer des accidents cardiaques.
Vous n'avez pas raconté l'histoire complètement. Allez, je vais le dire. Si vous avez eu envie de vous lancer dans cette histoire-là, c'est aussi parce que votre père est décédé et que vous vous êtes senti à ce moment-là totalement impuissant. Vous vous êtes dit, on peut pas regarder les gens mourir. Vous aviez le sentiment que vous auriez pu peut-être faire quelque chose. C'est aussi ça qui vous a donné envie de vous lancer.
Oui, définitivement, ça c'est la motivation primaire. La motivation primaire, lorsqu'on on a plein de diplômes, on a travaillé partout dans le monde et on se sent un petit peu démunis lorsque on perd un être cher à une maladie qui est mal gérée et on se sent qu'on n'a pas aidé dans cette gestion-là. C'est pour cela, d'ailleurs, j'ai créé cette compagnie-là pour essayer de... Désolé pour l'anglicisme, de pay it forward, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose pour les autres, pour se racheter un peu quelque part.
Oui, pouvoir faire ce que vous n'avez pas pu faire, le faire pour les autres, effectivement. Justement, on parle des maladies cardio-respiratoires, c'est quoi? C'est un spectre assez large,
c'est assez Elisabeth. Large. Dans les maladies cardio-respiratoires, il y a aussi les maladies cardiovasculaires. 9 maladies cardio-respiratoires sur 10, déjà, sont liées à l'environnement, sont liées à ce qu'on mange, à ce qu'on respire, à l'activité physique que l'on a ou pas. Et du fait de la présence des particules fines dans le sang, les maladies cardio-vasculaires sont en augmentation constante. Les maladies cardiovasculaires se situent au deuxième rang des causes de mortalité. Les maladies cardio-respiratoires sont celles aussi qui touchent les voies aériennes, y compris les voies nasales, les bronches, les poumons. Et puis ça va d'infections bénignes jusqu'à des infections aiguës comme la pneumonie, la bronchite ou des affections chroniques comme l'asthme.
On n'a pas parlé prix. Combien coûte votre dispositif aujourd'hui? Vous le fabriquez avec des gens du côté de Sophia Antipolis. C'est là que se trouve le gros de l'équipe?
Oui. Nous, notre valeur ajoutée, vraiment, c'est dans l'algorithme, c'est dans l'application. En fin de compte, nous, on a pris un outil ordinaire qui existe partout. Ça se vend.
Oui, vous n'avez pas vocation à fabriquer d'oxymètres. Hein,
On a le choix. On choisit juste les oxymètres de très bonne qualité et qui sont déjà dispositifs médicaux. Parce qu'il faut se rappeler que 80% de ce que vous trouvez sur le web pour pouvoir acheter à $20 ne sont pas vraiment de bons oxymètres. Ce sont de très basse qualité et c'est les trucs à éviter. Donc, il faut un oxymètre de très bonne qualité. Il faut aussi des performances très spécifiques pour que nous, on puisse extraire vraiment la richesse du signal. Mais en ce qui concerne le coût, pour le moment, dans notre business model, on s'attaque aux médecins. On essaie d'évaluer ça à peu près entre 50 et 70 euros par mois pour un revenu récurrent.
On reste ensemble et on continue à découvrir des innovations à notre service et au service de notre santé aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et pour vous déplacer dans les allées du salon, il vous suffit de regarder où vous mettez les pieds. Mais comment feriez-vous si vous étiez malvoyant? Eh bien, Horizon travaille pour eux. À tout de suite.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h comme chaque jour avec vous Raphaël Duchemin. Vous êtes en direct du Salon des Entrepreneurs Porte-Maillot et vous nous parlez des innovations dans le domaine de la santé avec vos invités cet après-midi.
Ah oui Céline, nous sommes ici effectivement au Salon des Entrepreneurs et il y a forcément hein, autour de nous des panneaux partout, idem si nous étions à Europe 1 d'ailleurs, hein, dans les couloirs, les escaliers, les ascenseurs, bref... Tout un environnement à appréhender. Pour nous, c'est vrai que c'est simple, il suffit de regarder, d'observer, mais pour les personnes aveugles ou malvoyantes, c'est un autre défi. Bonjour Cyril Courtonne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Horizon, ça s'écrit A-U-R-I-Z-O-N-E. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un GPS d'intérieur qui guide en fait les personnes aveugles ou malvoyantes dans les bâtiments. Racontez-moi comment est née l'idée.
Alors, c'est vrai que j'indique que je suis cofondateur, car en toute honnêteté, l'idée ne vient pas de moi, mais d'un de mes associés qui s'appelle Ken Tesser et qu'un jour est venu me voir en me disant qu'il avait déposé un projet dans le cadre de Réinventer Paris, un bâtiment inclusif qui proposait un assistant pour malvoyants qui fonctionnait avec des émetteurs radio et qui savait pas du tout comment il allait réussir à...
Un assistant vocal avec un smartphone,
un GPS avec un smartphone. Son idée, c'était de mettre à disposition une application gratuite pour les utilisateurs qui, à l'entrée du bâtiment, leur permettrait de gagner en autonomie et de découvrir plus facilement les services qu'ils proposent. Et donc, ils ne savaient pas comment monter ça. Et
ça tombe bien, vous êtes ingénieur.
Ça tombe bien, je suis ingénieur. J'avais à l'époque une agence dans le numérique. Tout un tas de prestataires et de partenaires enclins à travailler sur le projet. Et il y en a l'un d'eux qui a levé le doigt et qui a dit « Allons-y, allons-y, faisons-le, testons-le ». On a trouvé un investisseur assez fou pour nous rejoindre dans cette aventure. Et en fait, rapidement, on a équipé nos premiers bâtiments, des grands bâtiments, puisque quelques mois après les premiers développements, le ministère de la Justice notamment et Bouygues Construction est venu nous voir en nous demandant si on pouvait déployer le système dans le nouveau palais de justice de Paris qui se trouve à la porte de Clichy. Et donc voilà, le projet a démarré comme ça, la société s'est créée comme ça et depuis on continue de déployer, de développer cette solution avec les malvoyants et avec les sociétés qui veulent travailler avec nous.
Qu'est-ce qui se passe quand la personne non-voyante, malvoyante entre dans un bâtiment? Que va faire exactement le GPS?
Alors, il faut déjà charger l'application, télécharger l'application, donc qui est disponible sur iPhone et Android. Et à partir de là, la personne va, quand elle arrive aux abords du bâtiment, va lancer l'application. À ce moment-là, automatiquement, toutes les données nécessaires à naviguer dans le bâtiment vont se charger dans l'application. Et à partir de là, uniquement en captant des émetteurs qu'on dispose dans le bâtiment, la personne va être informée vocalement
de son environnement
et va pouvoir sélectionner un point d'intérêt, un point de destination, tout comme elle le ferait aujourd'hui avec un GPS classique.
C'est une sorte d'audio-guide, en quelque sorte.
C'est une sorte d'audio-guide. D'ailleurs, on développe des solutions pour la muséographie avec la possibilité de déclencher des contenus riches liés à des œuvres. Il y a notamment la Maison Victor Hugo à Paris qui est équipée avec ce système et qui est un musée qui a déjà tous les labels tourisme et handicap et qui accueille toutes les personnes en situation de handicap au travers d'une visite dédiée.
Gilles Van Der Poten, notre coach.
Oui, a priori, on se dit que le milieu hostile, c'est plutôt l'extérieur pour les personnes malvoyantes. vous nous dites que non, en fait. Hein, l'intérieur des grands bâtiments, des gares, des métros, évidemment, mais aussi un palais de justice.
Voilà, exactement.
Peut être équipé.
C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes malvoyant, alors moi-même, je ne suis pas malvoyant, mais on a tellement travaillé avec, on a beaucoup échangé avec nos utilisateurs. Et effectivement, il y a des zones de grand vide dans les bâtiments publics. Si vous prenez une gare SNCF, par exemple, comment est-ce qu'on se repère quand on se retrouve au milieu de la gare de Lyon, par exemple? Il n'y a quasiment pas de poteaux. Il y a des bandes de guidage au sol, mais il faut les trouver. Donc c'est des espaces qui sont très très hostiles pour eux et effectivement où ils ont besoin d'autonomie et de repères.
Est-ce qu'on peut cartographier finalement tous les endroits? Je parlais tout à l'heure du salon. Est-ce que sur des endroits comme ça qui se montent puis qui se démontent, vous pourriez avoir quelque chose d'agile à proposer aux personnes malvoyantes?
C'est une très bonne question. Effectivement, c'est une des spécificités de notre technologie. C'est-à-dire que nous, on cartographie le lieu et qu'en fait, on cartographie l'espace et qu'à l'intérieur, de façon numérique, on peut tout faire bouger. Donc pour un bâtiment comme la Porte Maillot dont le contenu évolue en permanence, nous en fait par simple clic et par une simple interface, on peut tout modifier, gérer les contenus, créer des nouvelles zones, modifier des zones. Ça répond tout à fait à cette demande.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé des innovations françaises aussi, d'autres, hein, pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes dans leur quotidien.
Oui, on a tous en tête une canne qui tâtonne sur un trottoir et une personne malvoyante qui tente de trouver son chemin. Une entreprise française, AudioSpot, qui a créé une application en 2014. C'est un service de géolocalisation, d'information sur le smartphone. En gros, l'application murmure des indications pratiques comme les arrêts de l'autobus, les horaires, la direction à suivre pour les utilisateurs en fonction du lieu où ils se trouvent. En plusieurs langues, c'est disponible en plusieurs langues. Vous avez aussi l'entreprise Inside One, la première tablette en braille. Là aussi, entreprise française d'Île-de-France, qui est à l'origine, c'était une première mondiale. Hein. Nous les avions reçus
dans la France Bouge, oui.
Dans la France Bouge. Le verre de cette tablette, c'est une tablette en format A4. Il est creusé pour matérialiser les touches d'un clavier braille, ainsi que des zones de fonction présentes tout autour de l'écran.
Gilles Van Der Potten.
Oui, j'avais entendu parler aussi il y a quelques années d'une canne connectée qui permettait justement, qui embarquait un système, je ne sais pas si c'était du Wi-Fi ou un GPS tout simplement.
Oui, oui, c'est une canne qui effectivement qui a un système d'exploitation dans lequel on pourra tout à fait installer Horizon. D'ailleurs, on en a déjà discuté.
Donc vous pourriez justement couvrir l'intégralité, enfin l'extérieur et l'intérieur sans problème.
On pourrait, c'est pas la même technologie. Nous, on s'est plutôt intéressé aux espaces intérieurs. À l'extérieur, il y a le GPS classique que tout le monde utilise, qui pourrait être suffisant. Après, effectivement, il y a une couche de description sur laquelle on pourrait opérer.
Oui.
Mais c'est tout à fait envisageable. On a des discussions avec ce type de société.
Combien vous êtes aujourd'hui et quelle est l'ambition d'Horizon?
Alors aujourd'hui, on est 5. Notre ambition, en fait, alors on vient de pas mal chambouler les choses et on se dit, en fait, on est parti sur une ambition très grande de dire on va développer une technologie avec un service d'intérêt public. Je pense qu'on a fait une erreur, c'est qu'on est parti sur une structure étriquée avec un business model classique. Et aujourd'hui, on a envie de l'ouvrir, en fait. C'est-à-dire, on a envie de l'ouvrir. On est face à des décisionnaires qui sont quand même compliqués, et les Jeux Olympiques qui arrivent dans 3 ans. Et en fait, on a envie que ça marche, cette technologie, on a envie que ça serve. Et donc, ce qu'on propose et ce qu'on va proposer, c'est de complètement l'ouvrir. Et que de fait, peut-être pourquoi pas même la rendre gratuite, la rendre open source. Et donc, j'invite tous les gens qui ont des idées pour que ça se déploie et que ça se développe au maximum de nous contacter. Voilà, aujourd'hui on s'ouvre, on est preneur de toutes les idées, tous les gens qui veulent y participer. Peut-être qu'on va faire une SCOP, peut-être qu'on va faire une association, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, on est ouvert. Je crois qu'il faut faire bouger les lignes et trouver du vrai sens dans ce qu'on fait et pas toujours courir après le profit.
On est bien d'accord et c'est voilà. Pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Vous avez bien raison de le signaler. En tout cas, nous, on vous suivra. On reste ensemble. Merci. Et on continue à parler innovation et santé aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Et si la 3D pouvait aussi servir aux dentistes ? Eh bien, vous allez voir que c'est possible et on va vous le prouver. A tout de suite sur Europe 1.
La France bouge cet après-midi est en direct du Salon des entrepreneurs porte-maillot et Raphaël Duchemin avec vos invités, vous nous parlez des innovations dans le domaine de la santé.
Oui, tout à fait. Et nous avons découvert des choses assez bluffantes hein, qui vont révolutionner notre quotidien. Et ça n'est pas terminé, Céline. J'ai le plaisir d'accueillir Léonard Gaucher. Bonjour Léonard.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de 3D Cello. C'est une start-up qui est spécialisée dans l'impression 3D pour le secteur dentaire. Alors là, les gens sont peut-être en train de se demander, mais attends, comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait exactement avec la 3D ? Eh bien, vous allez tout nous expliquer. Vous avez amené avec vous certains modèles. Vous pouvez refaire des prothèses ?
Alors, on ne fait pas des prothèses. On aide les praticiens à faire des trous. En fait, l'idée, c'est que donc on travaille dans deux domaines différents que sont l'implantologie et l'orthodontie. Dans l'implantologie, l'idée, c'est de faire un trou pour poser une racine artificielle qui va jouer le rôle de la racine et pour venir poser la prothèse par-dessus. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide le praticien à faire le bon trou. Parce que jusqu'à maintenant, le praticien regarde la radio, il va décider avant l'opération de où il va mettre son implant et il va y aller à main levée. Et ce que fait 3D Cello, c'est de proposer au praticien un service de planification, c'est-à-dire qu'on reçoit les fichiers du patient, on reçoit la radio, on reçoit l'empreinte de la bouche, on superpose tout ça, on positionne les implants dans la position idéale, on la soumet au praticien. Et avec une fois qu'on est d'accord avec lui, on va lui imprimer ce qu'on appelle un guide chirurgical qui va venir guider en fait, le forêt du chirurgien. Donc le praticien va venir forer.
Oui, vous êtes venu avec vos instruments.
Complètement équipé.
Je reste à bonne distance.
Et l'idée, c'est qu'il va venir être guidé par le guide chirurgical.
D'accord.
Et qu'il va être guidé en direction et en profondeur.
Ça signifie que la pâte qu'on met en principe chez le dentiste pour prendre l'empreinte, ça continue ça ou est-ce qu'avec votre système,
alors,
c'est plus la peine ?
Si ça continue, pour l'instant on reçoit les empreintes parce que tout le monde n'est pas équipé, ça coûte relativement cher de s'équiper en caméra optique. Donc on continue de recevoir des empreintes classiques que nous on va scanner, on va passer en numérique. Mais de plus en plus la tendance est, et on va vers un full numérique où tous les praticiens seront équipés et tous les praticiens auront une caméra optique. Ils pourront nous envoyer directement l'empreinte numérique, le fichier STL, donc l'empreinte volumique de la bouche du patient.
C'est très loin de ce que vous avez imaginé au départ avec Léopold, votre ami, avec qui vous avez monté cette entreprise, parce que vous vouliez faire en fait de la 3D, mais pour travailler sur la main.
Absolument. On a commencé par créer une association. Donc en fait, on est deux ingénieurs. On s'est rencontrés sur les bancs des classes prépa. On a fait beaucoup de voyages, beaucoup de musique. Et puis, on avait envie de donner du sens à nos projets. Moi, je travaillais dans l'impression 3D. Et Léopold travaillait dans une entreprise de conseil. Il avait envie d'évoluer. Et on a décidé de créer une association qui s'appelle Sanocello, qui existe toujours. Sanocello, ça veut dire Objectif Santé en espéranto. Et l'objectif de cette association, c'était de promouvoir l'impression 3D à très bas coût. Donc, c'est des technologies low-tech. C'est de faire des technologies pour un plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. L'essentiel des ingénieurs travaillent pour une minorité de la population à développer des technologies extrêmement complexes, des smartphones très poussés, alors qu'une grande majeure partie de la population n'en profite pas. Donc il y a une tendance low-tech qui se développe. On n'est pas les premiers, c'est tout un mouvement. Et on voulait s'inscrire là-dedans, donc à promouvoir une impression 3D au service de la santé dans les pays en voie de développement.
Oui, notamment effectivement en Afrique où... il y a énormément de besoins hein, sur cette question des prothèses.
C'est ça, nous on est partis au Congo, dans la région du Kivu, qui est une région assez dévastée. C'est la région des Grands Lacs, c'est à la croisière entre le Congo, le Rwanda. Enfin, c'est une région dévastée avec beaucoup de jambes très mutilées. Et l'intérêt, c'était d'apporter une technologie qui permette de faire des prothèses à 80 euros, c'était notre objectif à ce moment-là.
Donc le projet à l'époque n'est pas viable économiquement et vous décidez de changer un peu de modèle, c'est ça qui se passe ?
Pas tout à fait, en fait on a continué assez rapidement, on s'est dit qu'on voulait que ça nous plaisait, l'impression 3D, ça nous plaisait de travailler ensemble. Et on voulait être indépendant, on voulait pas rentrer dans une logique de dépendance de l'association à des subventions, etc. On voulait avoir un modèle hybride, en fait. Donc on a décidé de créer une entreprise qui s'appelle 3D Cello et qui utilise un peu les mêmes compétences qu'on avait déjà de l'impression 3D. Mais cette fois-ci en France avec un but lucratif, de créer une entreprise dans le monde de la santé.
Alors là, les choses sont en train d'accélérer. Vous êtes en train de sortir une appli web, c'est ça ?
C'est ça.
Pour faire quoi exactement ?
En fait, on a une vraie problématique d'échange de fichiers, parce qu'il faut comprendre qu'on travaille, c'est relativement complexe. On reçoit les radios du patient, c'est une première machine avec un premier ordinateur. On reçoit l'empreinte donc, du patient, c'est une deuxième machine avec un deuxième ordinateur. Le praticien doit nous envoyer tous ces fichiers-là. Il y a des échanges qui vont se faire. Il y a une vraie notion de traçabilité. Il y a un vrai enjeu de données de santé. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc on est en train de développer une appli web qui permette d'abord de gérer ça. Ensuite de permettre aux praticiens de nous donner des informations supplémentaires, c'est-à-dire de prépositionner les implants sur la radio. Et dans un second temps, de développer une intelligence artificielle qui puisse prépositionner les implants pour qu'ils soient déjà prépositionnés dans une position idéale.
Elisabeth, il existe d'autres entreprises françaises qui ont pas mal avancé aussi dans le domaine dentaire.
Dans le domaine dentaire et dans l'impression 3D, il y a SmileTech. Vous les connaissez,
tout à fait, bien sûr.
Ils conçoivent des nouvelles façons d'aborder donc toutes ces pathologies dentaires. Ils ont déposé un brevet sur un dispositif d'irrigation pour guider justement les chirurgiens pour la pose d'implants dentaires. SmileTech dispose aussi d'un laboratoire de prothèses dentaires qui fabrique et qui commercialise des produits destinés aussi bien aux praticiens privés mais aussi dans le public.
Gilles Van Der Potten, notre coach.
Oui, aller chez le dentiste, c'est rarement un plaisir. Là, vous essayez de positiver l'expérience, j'ai l'impression. Enfin, ou en tout cas de nous dire, on n'a pas tout essayé en la matière. Donc là, les bénéfices, c'est quoi en fait ? C'est on va faire de l'implantologie qui va durer plus longtemps, qui sera peut-être moins coûteuse, ou ça change peut-être rien au prix.
C'est ça.
Quels sont les bénéfices ?
Alors déjà, il y a l'arrivée du numérique. Pour le patient, c'est plus agréable d'avoir une caméra qui va prendre l'empreinte que de prendre une empreinte classique. Et nous, ce qu'on fait, en fait, on va rendre l'opération bien plus sûre déjà, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'implants, on n'est pas censé le dire, mais il y a un certain nombre d'implants qui sont mal posés, en fait, parce que la main humaine est quand même faillible, il faut le savoir. Donc il y a des opérations qui vont être plus sûres, qui vont effectivement être plus rapides, et c'est quand même pas un très bon moment, l'opération. Et il y a un dernier avantage qui est relativement... Même si l'implant est bien posé, il peut être imparfait d'un point de vue esthétique, et quand on va se faire poser des implants devant, par exemple, en secteur antérieur... Si on voit, il peut arriver qu'on voit des restes de l'implant et là, esthétiquement, c'est un vrai problème. Ce qui évite complètement le guide chirurgical puisqu'il permet d'anticiper la future position de l'implant.
D'accord. Et est-ce que ça coûte plus cher pour le patient au final ? Enfin, vous avez évalué le surcoût ?
Ouais. Alors nous, notre objectif, c'est de démocratiser cette technologie qui commençait déjà à arriver dans les années 2000, mais qui est restée l'apanage des gros poseurs, qui était un petit peu élitiste. Et nous, on arrive avec la volonté de démocratiser ce soin-là pour tout le monde. Donc on est sur des prix entre 100 et 300 euros pour le guide chirurgical, ce qui est extrêmement abordable pour le... Alors certains praticiens encaissent le coût et d'autres le facturent au patient.
On reste ensemble et on continue à parler innovation santé aujourd'hui sur Europe
1. Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend, que vous soyez ici dans le public au Salon des Entrepreneurs avec vos questions ou bien au 3921 et sur Twitter, hashtag Europe 1. La France bouge avec vous. A tout de suite.
La France bouge est en direct du Salon des Entrepreneurs encore aujourd'hui, porte-maillot, avec vous Raphaël Duchemin. Vous parlez santé et des innovations dans la santé avec vos invités.
Oui, nous sommes avec Slah Ridi, fondateur et président de Sensoria Analytics, qui a mis au point CardioSensis. CardioSensis, c'est une solution pour prévenir les maladies cardio-respiratoires. Cyril Courtonne est également avec nous, cofondateur d'Horizon, qui propose un GPS d'intérieur pour guider les personnes aveugles ou malvoyantes dans les bâtiments. Et Léonard Gaucher, cofondateur de 3D Cello, c'est une start-up spécialisée dans l'impression 3D pour le secteur dentaire. Notre coach aujourd'hui, c'est Gilles Van Der Potten, dirigeant de Reporters des Sports et de la France des Solutions. Et bien sûr, à mes côtés, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Elisabeth, justement, on parle santé. Le secteur de la santé, c'est un gros, très gros marché.
C'est le deuxième marché européen pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Et là aussi, la France a toujours été à la pointe de l'innovation dans les secteurs de la santé. Ce secteur, aujourd'hui industriel, central dans l'économie française, compte plus de 3000 entreprises et réalise un chiffre d'affaires de près de 90 milliards d'euros.
On se rend compte avec vos trois entreprises, vos trois projets, que les choses vont vite, vont de plus en plus vite. Vous avez le sentiment qu'on est suffisamment aidé aujourd'hui quand on veut faire de l'innovation santé en France ? Qui a envie de répondre ? Cyril ?
Tout dépend du profit qu'on est capable de générer autour de notre activité. Et de potentiellement l'intérêt pour les grands acteurs de racheter notre innovation. C'est sûr que quand on n'a pas ces deux aspects, c'est compliqué de trouver des financements et de trouver de l'argent et de pouvoir innover sereinement.
Oui, vous avez eu du mal aussi à trouver des financements au départ, Léonard ?
Nous, on a été assez accompagnés. On a fait une première petite levée en fait en Love Money, et après on a été accompagnés par Réseau Entreprendre et Wilco, que vous connaissez peut-être.
Bien sûr, on les a reçus, évidemment.
Qui nous ont quand même bien aidés, donc là-dessus, je ne me plains pas trop.
Et de votre côté, cela ?
Oui et non, dans le sens où est-ce qu'au début, on a eu de l'aide de BPI, parce que c'était un projet innovant et émergent. Le seul souci, c'est le côté amorçage, qui est un peu dur. Mais en fin de compte, on va arriver avec des levées de fonds, donc ça va.
Je voudrais qu'on revienne à vos trois projets. Léonard Gauchet, avec 3D Cello, on a vu que vous lanciez une appli web. Vous avez aussi sorti, fin 2019, hein, je crois, un produit pour les fameuses gouttières d'alignement pour l'orthodontie.
C'est ça, c'est la Duchesse. En fait, l'idée, c'est que la complexité de ce qu'on fait, elle est vraiment dans le flux numérique, dans la partie en amont. Et une fois qu'on a mis en place une intelligence pour gérer, et donc il y a cette partie numérique, et il y a la partie, en fait, on fait du sur-mesure de masse. Et ça demande beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation, il faut gérer une traçabilité. Une fois qu'on a mis en place tout ce système de gestion des fichiers et de l'information, c'est assez facile pour nous de sortir des nouveaux produits qui s'inscrivent dans ce même flux numérique. Donc on sort effectivement, là on a sorti tout récemment ce produit qui est la Duchesse, qui est donc dans le domaine de l'orthodontie, qui consiste à poser successivement différentes gouttières transparentes, invisibles, pour réaligner les dents des patients.
On peut tout faire aujourd'hui avec la 3D ?
Non. Non. Ça serait mentir que de dire ça. Mais on peut faire beaucoup de choses.
Ouais. On peut faire
et
beaucoup
ça va très vite.
J'aimerais bien rajouter un point au niveau de la santé. C'est oui, vraiment ça. Au niveau du financement. Mais c'est plutôt au niveau des données. C'est très important parce que nous, on utilise beaucoup d'algorithmes, donc on a besoin beaucoup de données pour vérifier nos algorithmes. Et au début, on a trouvé beaucoup de difficultés d'accéder à des données en France et en Europe. Personnellement, j'ai étudié des databases américaines pour pouvoir avancer et maintenant, on essaie de faire des tests cliniques ici localement. Mais par contre, on est un petit peu, c'est-à-dire on a plein de données dans les hôpitaux, dans les cliniques en France, mais elles sont tellement fermées.
Et oui, c'est la fameuse protection des données.
Exactement, mais elle peut être anonymisée pour la recherche, pour avancer. On est désavantagé à ce niveau-là par rapport aux autres pays.
Ouais, il y a un effort à faire, effectivement, pour ouvrir la donnée sans donner le nom
voilà,
des patients.
Exactement. Hein. Voilà, anonymiser et essayer de donner aux chercheurs pour qu'ils puissent avancer, pour compétitionner avec les autres pays, surtout les Chinois, les Indiens et les Américains.
Vous avez justement, puisque vous parlez des autres pays et de la concurrence, vous avez des concurrents directs sur le type de produits que vous développez aujourd'hui ?
Les concurrents, ils sont directs dans le sens où ils s'attaquent à des maladies cardiovasculaires, mais pas de la même façon que nous. La plupart, c'est vraiment des ECG. Donc les ECG, comme par exemple, on prend le fameux Apple ECG, mais par contre, ça détecte juste les irrégularités et un certain type d'irrégularité. Nous, on regarde un peu plus loin, on regarde un peu plus le flux. Donc notre innovation, elle est beaucoup plus riche que ce que le ECG peut procurer. Par contre, un vrai ECG, lorsqu'on le fait, chez un cardiologue avec 12 LED, 12 LED et tout ça. Donc ça, c'est beaucoup plus complexe, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup plus de spécialistes.
Gilles van der Potten.
Oui, vous avez tous évoqué la question du financement. Et je me demandais si votre objectif est de rester indépendant à ce stade, où vous êtes sollicité par des grands groupes qui auraient intérêt à adopter vos technologies, à gagner un peu de temps. Enfin, comment vous appréhendez ça ?
Qui a envie de répondre à cela ?
Pour le moment, les grands groupes en discutent. on continue à discuter, les grands comptes, parce que ça prend du temps. De toute façon, c'est des machines super lourdes, ça prend vraiment énormément de temps. Mais l'intérêt pour moi, c'est vraiment d'essayer de mettre cet outil-là dans la main de monsieur tout le monde. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'être beaucoup moins... parce que ça, c'est quand même assez encombrant de se promener avec ça dans la poche. Peut-être dans un sac à main, c'est possible, mais pas dans la poche. Donc, pour transposer cette technologie-là au niveau des montres. Mais les montres, ils utilisent une technologie qui n'est pas vraiment très fiable pour le moment. C'est une technologie de réflectance. Peut-être dans 3, 4, 5 ans, ça va être mature. Et lorsque cette technologie-là va être mature, probablement, on va être prêt avec nos algorithmes pour s'intégrer avec des grands groupes, quoi.
Cyril, vous cherchez l'autonomie, oui. Vous parlez de scope, de transformation coopérative.
Nous, on est plutôt en recherche d'autonomie, effectivement. Ce que je voulais dire sur les financements, c'est que c'est vrai que souvent on critique la France au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai travaillé dans d'autres pays. Je crois qu'il y a peu de pays dans le monde où on est capable de partir de zéro et de monter une société, de trouver des clients et de trouver des financements. C'est vrai qu'on a de la chance, on a la BPI qui soutient également notre projet, et il y a des incubateurs, nous on est chez Paris-Senco, Réseau Entreprendre, il y a quand même tout un écosystème qui permet de faire émerger des innovations, et je crois vraiment que c'est un beau pays pour ça, et on peut être content de...
Vous avez raison, on le constate tous les jours.
Voilà, c'est ça.
Léonard ?
Nous on a une vraie volonté d'accélérer, en fait, là on a validé le concept, nos clients sont contents. Donc on a envie d'accélérer, on va lever des fonds. Par contre, effectivement, on a envie de rester indépendant des grands acteurs de notre secteur, simplement parce que un des avantages de notre solution, c'est d'être universel, d'être utilisable avec toutes les marques d'implants, ce qui n'est pas le cas de certaines solutions qui existent sur le marché. Donc en fait, on n'a pas envie on a envie de garder notre indépendance vis-à-vis des grands acteurs, quoi.
Et vous donnez quelque part une vocation sociale, tous les trois, qui fait que vous voulez conserver des prix attractifs, accessibles à tous ?
Exactement, oui.
Exactement,
oui, tout à fait.
Tout à fait, ouais, c'est ça.
Elisabeth, on a vu qu'il y avait énormément de choses dans le domaine de la santé en termes d'innovation. Les téléconsultations aussi. Hein.
Mais oui, les téléconsultations en ce moment avec toutes ces épidémies, ça pourrait être aussi une solution pour désengorger les urgences. Vous avez l'entreprise Hellocare, plateforme qui met en relation les patients et les médecins, très pratique donc pour désengorger les urgences, permet de limiter les flux des patients, et le médecin téléconsultant peut faire aussi le lien avec les services hospitaliers. Vous avez aussi H4D qui commercialise depuis 2017 des cabines de téléconsultation qui peuvent réaliser des visites médicales à distance. Le patient s'installe à l'intérieur de la cabine, le médecin le guide en visioconférence pour effectuer les mesures médicales, les examens médicaux, parce que le patient a à disposition les outils de mesure médicale, il a stéthoscope, la prise de tension, et donc grâce à cette cabine, il peut réaliser jusqu'à 92% des actes réalisés lors d'une consultation en présence du médecin.
Oui, c'est important. Le fondateur d'H4D qu'on avait reçu dans la France Bouge l'année dernière nous disait que ça permet notamment aux personnes qui se trouvent dans des zones reculées d'avoir accès
médicaux, oui.
à des médecins, et c'est comme ça qu'est née d'ailleurs l'aventure. Merci à tous les trois d'être venus participer à la France Bouge, ici, merci, au Salon des Entrepreneurs. Vous nous donnez évidemment de vos nouvelles.
Merci beaucoup.
Merci.
Il est 13h47.
Europe 1.
Restez avec nous, il prévoit d'ouvrir 11 nouveaux restaurants en 2020. Bagel Corner est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Et avant de découvrir cette entreprise qui va bien, Raphaël, un peu de musique dans Culture Média, avec le duo Bon Air, ils sortent un nouvel album le 28 février. Un album qui s'appelle Sauvage, et c'est aussi le nom du titre qu'on écoute maintenant sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Oui, et c'est l'heure dans La France bouge de découvrir, Raphaël, l'entreprise qui va bien.
Oui, Céline, effectivement. Et cette entreprise, eh bien, c'est Bagel Corner. Bonjour Grégory Clément. Merci d'être avec nous. Je crois est-ce qu'on vous entend, Grégory ? Je vous ai pas.
Ça y est.
Vous êtes avec nous. Grégory, vous avez depuis tout jeune, je peux le dire, la fibre entrepreneuriale.
Tout à fait.
C'est une histoire de famille chez vous.
Ça a commencé effectivement assez tôt. Je vendais en fait au lycée des scooters et des mobylettes à 14 ans pour gagner mon argent de poche. Et j'ai commencé ma première entreprise à 19 ans au Canada pendant mes études, une seconde à 20 ans. Et après, j'ai monté Bagel Corner avec Rachid et Michael Cohen. On est à 3 et on va avoir une soixantaine de restaurants à la fin de l'année. On en vise 10 par an pour 700 demandes de franchise, ce qui nous fait 100 restaurants en 2024. Et on en vise 250 à terme en Europe. On veut devenir le leader européen de la vente de bagels en petite surface.
Alors, c'est impressionnant quand vous donnez les chiffres. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on revienne au début de l'histoire, parce que vous vous rendez compte avec vos deux associés, vos deux copains, que des bagels, bah, il y en a aux États-Unis, qu'il y en a en Europe de l'Est, et que finalement, au milieu, il y a une zone vide. C'est la France. Entre autres.
Exactement. En fait, vraiment, Bagel Corner, c'est l'histoire vraiment de trois amis passionnés d'entrepreneuriat. Et on fait un voyage en fait de fin d'études à Budapest. On se rend compte que le bagel marche. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mes études au Canada. Je me rends compte que le bagel et le donuts marchent très bien aussi. Et on se dit, let's go, faisons une chaîne de restaurants sur le bagel, leader en Europe. Et c'était comme ça dès le premier jour.
Oui, parce que au départ, vous aviez en tête, quand vous êtes rentré en France, de faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir, c'est-à-dire un site de vêtements de grande taille.
Alors effectivement, quand j'ai fait mon master en entrepreneuriat en France, en rentrant du Canada, je voulais lancer du coup une nouvelle boîte. Et je me suis rendu compte que, en fait, je viens du Nord, je suis un ch'ti, j'ai les pieds dans la terre. Exactement. J'ai les pieds dans la terre et j'aime bien le concret. Alors j'ai fait une boîte de peinture, une boîte d'éveil musical. Et en fait, je voulais rester dans le concret. Là, ce qui est bien avec Bagel Corner, c'est que voilà, on a des restaurants, on fait des commerces, il y a des clients, des fournisseurs, on vend les produits. Et ça me plaît. Et du coup, j'ai switché d'un projet digital à un projet retail.
Ah oui, rien à voir. Alors la première ouverture, c'est en 2011, premier restaurant avec un emprunt au départ.
Alors on a démarré avec 30 000 euros d'apport. Donc comme quoi l'entrepreneuriat, c'est vraiment accessible. On a fait un emprunt de 120 000 euros et on a eu un prêt Paris Initiative Entreprendre de 30 000 euros.
Deuxième restaurant, deux ans plus
tard.
Deuxième
restaurant en 2013, troisième en 2014.
Donc ça va vite.
Ça va vite, mais on a quand même pris le temps de construire le modèle. En fait, on a toujours voulu penser grand. Et quand vous voulez penser grand, il faut dupliquer et il faut donc processer. Et pendant ces quatre années-là, en fait, on a processé l'ensemble de la marque pour après la lancer en franchise. Et donc, en fait, on a vraiment construit le modèle avec nos clients. On a écouté le client au quotidien dans le restaurant pour peaufiner le modèle et le rendre de plus en plus rentable et le dupliquer en franchise.
Notre coach, Gilles Vanderpotten.
Au pays de la baguette et du jambon beurre, est-ce qu'il y a de la place pour un bagel peut-être de la même sorte? Quel est votre best-seller?
Alors, notre best-seller, c'est le New Yorkais. C'est un bagel, en fait, au pastrami, moutarde de miel. C'est vraiment super bon. C'est très apprécié de la gente féminine, effectivement.
Ouais,
on a aussi le saumon qui marche bien. En fait, l'idée, c'est vraiment d'offrir à notre clientèle des produits. Alors, Bagel Corner, c'est un concept éco-responsable et digital. On fait tous les produits sous les yeux du client. On cuit nos cookies nous-mêmes. Pareil pour nos muffins. Tous les fruits et légumes sont en local. Donc, on est vraiment au-delà des best-sellers. On est vraiment sur que des produits qualitatifs parce que c'est aussi la tendance du marché. La qualité, la qualité, la qualité.
Vos bagels sont tous distribués depuis Lyon.
Exactement. Et les bagels sont vraiment de pareil. Alors, on a choisi un bagel qui est tendre et mou. C'est hyper important dans le marché du bagel d'avoir un bon pain. C'est ce qui fait le concept. Aujourd'hui, ce qui nous valide la qualité du pain, c'est qu'on livre depuis 3 ans le restaurant sur mesure qui est dirigé par Thierry Marx et on lui livre en fait les bagels pour le matin. Ça montre vraiment que le pain est de qualité parce qu'on a un chef étoilé qui commande notre pain.
Vous avez aussi, et vous avez commencé à en parler, un engagement éco-responsable assez fort. Vous avez des emballages principalement faits en Made in France, du café bio, du tri sélectif. Voilà, c'est plus qu'un mouvement.
Alors effectivement, chez nous, en fait, c'est arrivé très tôt parce que c'est dans notre ADN. Voilà, on a créé une chaîne de restaurants qui a quand même un impact sur la planète et l'environnement qui est assez significatif. On fait entre 100, 200, voire 300 menus par jour par restaurant. Et alors c'est vrai qu'au départ, on l'était un peu moins parce que quand on crée une boîte, ce qui est important, c'est quand même que en bas, il reste de l'argent pour pouvoir vivre. Et en fait, au fur et à mesure où le projet a grandi, on a de plus en plus intégré nos valeurs humaines dans l'entreprise. Et aujourd'hui, dès 2017, on a mis en place l'éco-responsabilité, comme vous l'avez dit, avec effectivement des emballages qui sont principalement produits à Tours. On a le tri sélectif, le café équitable, les ustensiles en fibre de bambou. On fait aussi tout ce qui est fruits et légumes en local pour pousser les circuits courts chez Bagel Corner.
Vous êtes combien aujourd'hui chez Bagel Corner? Vous étiez 3 au départ, on l'a bien compris, mais aujourd'hui c'est 19 au siège et combien ailleurs?
Alors effectivement, on était 3 au départ et on se rappellera toujours des débuts. Hein. On avait nos bureaux dans notre chambre. Moi, j'avais mes premiers dossiers de franchisés au bout de mon lit. J'avais l'impression de vivre avec eux. Mais maintenant, on est donc 19 sur le siège. On a vraiment une très très bonne équipe parce que on fait vivre l'aventure entrepreneuriale aussi à nos équipes. Et pour nous, elles sont vraiment partie intégrante de l'équipe au global. Et après, sur le groupe, on est à peu près 260 personnes pour 60 restaurants. L'idée, quand on en aura 250, c'est que ce sera un groupe qui sera à peu près de 1000 personnes, un peu plus.
Aujourd'hui, les ouvertures, elles sont prévues où ?
Alors aujourd'hui, on est principalement en France. On a signé un contrat de master franchise pour la Belgique et le Luxembourg. On a signé aussi un contrat de master franchise pour l'île de la Réunion. Et j'étais ce matin même avec un candidat pour la Corse. Donc on maille les zones francophones qui sont loin, donc l'île de la Réunion. Donc on apprend la logistique loin, mais ça reste français. On maille une zone qui est proche, Belgique-Luxembourg, mais dans une autre langue. Donc on est proche, mais c'est une autre langue, pour après conquérir l'Europe. Donc les pays cibles seront notamment le Royaume-Uni, où le bagel est très connu, parce que c'est un pays anglo-saxon, et la Scandinavie.
Des envies de retourner au Canada avec vos bagels ? Ou pas ?
Alors, je suis retourné plusieurs fois pour voir mes amis d'école. Et je pense que je n'irai pas parce que je pense qu'ils sont très forts. Et je pense qu'on a beaucoup à faire d'abord en France parce qu'on peut mettre au moins entre 150 et 170 restaurants France, Belgique, Luxembourg. Et il y a aussi un très gros travail sur le Royaume-Uni. Pour moi, le Royaume-Uni peut accepter entre 400 et 500 restaurants. Donc on est au-delà des 250, il y a encore beaucoup de travail en Europe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a très faim, sans faire de jeu de mots. On veut aller loin et pour nous, si on n'est pas le leader, c'est qu'on est vraiment mauvais.
Oui, vous travaillez avec des marques importantes hein, aussi aujourd'hui. Vous me parliez de Columbus tout à l'heure. Il y a des partenariats, il y a des choses qui se créent, il y a des synergies.
Alors effectivement, en fait, ce qui est important, dans l'entrepreneuriat, pour moi, il y a trois qualités pour être un bon entrepreneur. La première, c'est savoir travailler. Hein. Encore hier, j'étais sur le salon, j'ai fini à 3h pour retraiter tous mes mails. Donc travailler tôt le matin, tard le soir, le week-end. La deuxième, je dirais, c'est être passionné. La passion rassemble les gens et permet d'aller loin. Tout seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Et la troisième, je dirais, c'est s'entourer. Donc s'entourer, c'est notamment, par exemple, nous, on a mis en place un board métier autour de nous. Au bout du deuxième restaurant, on a l'ancien directeur de la franchise Midas, on a l'ancien DRH France McDonald's, le PDG de Columbus Café, l'ancien directeur Quick Burger King ou encore le fondateur de Mezzo di Pasta. Et c'est des gens qu'on voit en fait tous les trois mois à qui on partage nos problèmes et qui en fait ont déjà tous vécu une chaîne de 200 restaurants et qui nous permettent du coup de vraiment rechercher l'excellence sur l'ensemble des sujets du développement.
C'est Bagel Corner et c'est donc l'entreprise qui va bien. Merci beaucoup d'être venu nous raconter une partie de son histoire qui continue de s'écrire, on l'a compris. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Europe 1, ici au Salon des Entrepreneurs. Merci à Gilles Vanderpotten qui était notre coach aujourd'hui.
Merci à vous.
Elisabeth, retour en studio évidemment. Et merci à toute l'équipe technique qui réalise des prouesses chaque jour.
Merci Europe 1.
Merci Raphaël Duchemin, et à demain, restez sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouverez Christophe Ondelat qui vous raconte cet après-midi l'histoire de Blanche Monnier, la séquestrée de Poitiers.